Bonjour Daniel. Alors, pas de message hier? Ben alors, qu'est-ce que tu fais? Tu nous as punis ou quoi? Pourtant, je te jure, entendre les messages, ça nous fait du bien, hein, de savoir qu'on n'est pas les seuls à penser ce qu'on pense. Tous les jours, moi, j'ai envie de bondir sur mon téléphone. Tous les jours, pour dire, par exemple, aux actionnaires qui doivent aux ouvriers des siècles de vie. Parce que tout le monde sait qu'un ouvrier, ça vit 10 ans de moins qu'un cadre. Faut raconter aussi qu'à l'école religieuse, où j'étais parmi les rares filles d'ouvriers, on nous faisait jouer des scénettes en fin d'année, et une en particulier, l'histoire d'un noir que son maître a décidé de barbouiller. Pour dire enfin qu'il y a des jours où je la sifflerais bien, moi, la Marseillaise. Ben, qu'est-ce que je raconte, moi? Si ça recommence, ce soir, je dors à l'ombre. Salut Daniel, et surtout, encore des messages.
Bravo là-bas si j'y suis, mardi 29 novembre 2005, là-bas si j'y suis, interview un authentique stalinien, un stalinien à l'antenne, qui évidemment critique le fait qu'il y ait de la publicité dans un journal. Évidemment, d'un point de vue économique, ça peut se comprendre, mais d'un point de vue politique, non. Et voilà, on a un authentique stalinien à l'antenne, ça fait plaisir. Merci, là-bas si j'y suis, ciao.
Oui, bonsoir Daniel, bonsoir toute l'équipe. C'est Dominique de Lyon. C'est une petite réaction suite à l'émission d'aujourd'hui sur l'évolution du journal Libé. Bon, ça me rappelle un petit peu ma jeunesse. Et je voulais juste faire remarquer que le basculement que moi j'ai constaté dans la ligne éditoriale, ça date pas de 81, mais plutôt de l'été 77, avec la fameuse révolution graphique qui a fait, à mon sens, hein, basculer le journal vers un journal, je dirais, tendance. C'était un petit peu nouveau à l'époque, mais c'était un petit peu ce qui se faisait chez Actuel, chez pas mal d'autres journaux. Et c'était à ce moment-là, chez Libé. Bon, bonsoir à tous et continuez ce que vous faites.
Coup de nostalgie après l'émission de ce soir sur Libé. Et puis j'ai trouvé ces quelques vers d'Éluard pour continuer à croire que nos rêves n'appartiennent pas qu'au passé. Nous jetons le fagot des ténèbres au feu. Nous brisons les serrures rouillées de l'injustice. Des hommes vont venir qui n'ont plus peur d'eux-mêmes, car ils sont sûrs de tous les hommes, car l'ennemi à figure d'homme disparaît.
J'écoute actuellement l'émission, nous sommes mardi, et je suis un petit peu surprise qu'on parle de la création de Libération sans faire mention d'un précédent Libération qui était dirigé par Emmanuel Dastier de la Vigerie. À l'époque, il a commencé à être publié juste après la Libération. Je vous remercie d'y penser.
Je viens d'écouter l'émission sur Libération. Et j'ai acheté le diplôme en novembre et je suis tombée sur quelques publicités qui m'ont un peu dérangée, Microsoft, La Laguna chez Renault, SFR, Provalis. Bon, ça serait peut-être bien d'en causer une fois dans une émission. Voilà, c'était Anne à Man. Merci, au revoir.
Oui, bonjour Daniel Mermet, voilà, je t'appelle de Toulouse. Je m'appelle Eric et j'appelle pour la première fois l'émission que j'écoute de temps à autre. C'était juste pour te dire qu'il y a quelques jours est mort Pierre Selle. Il est mort, un petit peu dans l'oubli. C'est un homme qui a été détenu dans des camps de concentration durant la dernière guerre mondiale pour crime, entre guillemets, d'homosexualité. Il était par ailleurs le seul rescapé homosexuel français à avoir accepté de témoigner de l'horreur de ce qu'il a vécu dans sa jeunesse. Voilà, ben tu lui avais consacré il y a quelques années 2 émissions. Voilà, je voulais juste te dire que tout ça était très triste et que c'était un homme digne, un homme en colère qui forçait le respect. Et puis voilà, ben je tiens à dire aussi que les rangs de l'Église où ont eu lieu ces obsèques avant-hier à Toulouse, les rangs étaient fort rares, étaient clairsemés, et puis les fleurs, elles aussi, très rares. Pas d'hommage officiel. Voilà, c'était un triste moment et un triste constat de la mémoire des hommes et de l'oubli dont ils peuvent faire preuve parfois. Voilà, je voulais lui rendre hommage. Pierre Selle était un grand monsieur, très en colère. Et puis par ailleurs, il se confirme même qu'il devrait recevoir dans quelques mois la Légion d'honneur à titre posthume. Voilà, je ne ferai pas plus de commentaires. Je rappelle juste que la Légion d'honneur est donnée de leur vivant à tout un tas de comédiens, de chanteurs et de gens qui n'ont rien fait de leur existence. Voilà, je t'embrasse Daniel. Merci pour ces émissions. Merci pour l'hommage que tu avais rendu il y a quelques années à Pierre Selle. À très bientôt. sur l'antenne. Bye bye.
C'était un auditeur sur le répondeur de la base J'y suis, il y a des années, qui nous avait signalé Pierre Selle et son combat pour faire reconnaître la déportation des homosexuels. Et jusqu'au bout, Pierre Selle se sera battu pour faire reconnaître cette déportation et la destruction des homosexuels par les nazis. Alors aujourd'hui, en hommage à cet homme qui s'est battu toute sa vie, et puis aussi à cause de cette église un peu dépeuplée dont on vient de nous parler, on va lui rendre hommage jusqu'à 18h. Évidemment, chacun a droit à sa mémoire, surtout quand c'est une mémoire douloureuse, quand c'est une mémoire à vif, quand c'est une mémoire blessée. Je pense évidemment à la mémoire de la colonisation, à la mémoire de la traite négrière, etc. Le grand risque, on le connaît, le risque, il est la récupération de ce capital victimaire dans la concurrence victimaire, et c'est-à-dire ce qui va nourrir, ce qui risque de nourrir aujourd'hui le communautarisme, comme on dit. Mais chacun a droit d'abord à cette mémoire. C'est pas seulement un droit, je crois que c'est une nécessité. Voilà, auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut, comme je l'avais annoncé hier, aujourd'hui, le 29 novembre, il y avait un mouvement des travailleurs sociaux de l'administration pénitentiaire. Alors nous, on n'a pas le droit de grève, alors nous, on est en mouvement. Personne n'a vraiment parlé de nous. Normal, on est 1900. 1900 pour suivre 210 000 personnes. Ce sont soit des personnes incarcérées ou ayant une mesure judiciaire. Mais l'an prochain, avec les créations de postes prévues, ça va être super. Si on fait un mouvement, ça va péter. Ah ben, faites attention, ouais, ça va péter. Et ouais, on sera 1980. Pour toujours 210 000 personnes, enfin ça, on espère, vu que les effectifs augmentent très vite dans nos prisons. Salut.
Bonjour, chers amis. Pour une fois, je trouve que l'UMP a beaucoup d'humour avec cette histoire d'aspect positif de la colonisation, et je leur propose de faire d'autres lois. Par exemple, aspect positif du tourisme sexuel pédophile sur le budget du Cambodge, ou alors aspect positif de la Deuxième Guerre mondiale sur la surpopulation mondiale, etc., etc. On tombe vraiment très bas dans ce pays, quoi. Il serait temps que la population s'aperçoive dans quelle bassesse on est tombé. Ça me rappelle d'ailleurs le thème électoral de la France d'en bas choisi par l'UMP, et ça serait pas la France dans ce qu'elle a de plus bas.
Pendant 400 ans et plus, on a déporté des millions d'Africains aux Amériques pour les faire travailler à mort sur les plantations. Pendant un ou deux siècles, l'Europe a colonisé les pays de ces mêmes Africains afin de les exploiter sur place. Pendant 50 ans, on a maintenu au pouvoir une flopée de dictateurs à coups de coups d'État, de trafic d'armes et de corruption afin de continuer à piller en toute tranquillité leurs richesses naturelles. Après avoir servi de chair à canon en 14-18 et 39-45 et délivré l'Europe du nazisme, ces mêmes Africains ont reconstruit l'Europe et la France, toujours exploités et parqués dans les bidonvilles puis les cités dortoirs. Depuis des années, l'Afrique est asphyxiée par le remboursement de la dette, alors que nous, Européens, Américains, sommes ses débiteurs. Résultat des courses ? Une jeunesse acculée se jette sur les murailles de l'ingrate Europe quand elle ne tombe pas des avions, tandis que leurs cousins, à l'intérieur, sont anesthésiés sous errer misère, sous éducation et sous emploi, et on s'étonne de voir brûler quelques bagnoles qui nous asphyxient. Je comprends cette rage, je la partage. Par-dessus cela, l'opportuniste Sarko, lui-même d'origine étrangère, mais ayant bénéficié de tous les avantages de la République, Sarko donc, le marchand de peur, insulte les enfants et petits-enfants de toutes ces générations sacrifiées. C'est faire preuve d'amnésie doublée de cécité. Je dirais même plus, Sarko, tu dépasses les borgnes. Rectification, le borgne.
J'appelle parce que j'en ai marre d'entendre à la radio en permanence la surenchère xénophobe. Là, il y a un concours entre De Villiers, Sarkozy, Villepin, etc. pour savoir lequel va être le plus à droite et le plus cinglé. Il y a des effets d'annonce sur la soi-disant baisse du chômage alors qu'on met les gens en contrat aidé, on les radie et on se fout de notre gueule. Il y a une stigmatisation des chômeurs, une stigmatisation des étrangers. et on n'arrête pas. Et enfin, vraiment, faut arrêter, quoi. Moi, les gens, écoutez bien les gens, il faut investir les partis, il faut aller dans les collectifs, il faut se battre, il faut vraiment les foutre dehors, quoi. Vraiment. Bon, voilà, c'était mon coup de gueule du matin.
Je souhaite qu'on intervienne plus fortement sur les gens qui n'ont pas de logement et qu'on laisse mourir. Alors, pouvons-nous accepter que des hommes et des femmes et peut-être des enfants vivent dehors de ce moment, qu'ils ne puissent pas disposer d'un logement? Où est le respect des droits de l'homme? Est-ce qu'on va agir une fois pour toutes et dénoncer l'État comme criminel? C'est bien entendu la politique menée de libéralisme qui conduit à ça. Mais depuis longtemps, c'est comme ça. Et ça va en augmentant. Allez, essayez de faire réagir. Merci, salut.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from New York.
Moi, Pierre Selle, né le 16 août 1923 à Haguenau, arrêté, torturé, violé par les nazis à Mulhouse en mai 1941, interné au camp de concentration allemand de Forbruck, déporté, non reconnu à ce jour. Moi, Pierre Selle, arrêté, torturé, violé par les nazis à Mulhouse en mai 1941, déporté au camp de concentration allemand de Forbruck pour homosexualité. Demande officielle de la reconnaissance légale et de droit de la déportation historique des homosexuels et homosexuels par les nazis pendant la dernière guerre. J'ai vécu ce drame dans l'horreur de la souffrance indicible. Le racisme sexuel existe. Je veux au soir de ma vie et jusqu'à mes toutes dernières forces encore persévérer pour notre mémoire et notre réhabilitation. Mon douloureux témoignage personnel de 49 années d'angoisse honteuse. Petit chapeau, petite écharpe, cravate, manteau, retraité, propret, province, courtois. La nuit, il ne dort pas dans son appartement. Tout un bordel tourmenté de papiers empilés, dossiers jetés, journaux découpés ou froissés. Sur la cuisinière, il regarde une bougie. Une bougie allumée. La bougie, c'est Jo, son ami martyr, son amour torturé. Cet homme porte plus d'histoire qu'un homme peut en porter. Il est sans doute le seul rescapé des déportés homosexuels de la dernière guerre. Et depuis des années, à 70 ans, il se bat désespéré pour le droit, le simple droit, le plus simple des droits, la plus élémentaire des dignités.
J'ai tellement étouffé cette chose pendant 40 ans. Est-ce que vous vous imaginez? Avec un mouchoir, j'ai vécu sur la bouche. Ne rien dire à personne. Il n'y avait que le moment qui est arrivé à mon retour de Russie à savoir ce qui s'est passé. C'est à elle que je l'ai dit. Et après, on me reproche, ma femme me reproche que je n'ai jamais rien dit. Mais je ne pouvais, on ne peut parler qu'avec sa mère de ces choses-là. On ne peut pas parler avec une épouse, avec une femme. Je ne peux pas, moi je ne pouvais pas. je me serais diminué moi-même. Or, dans la vie, je n'ai toujours eu qu'un sentiment de me grandir, que ce soit dans le travail, que ce soit l'exemple que je donnais à mes enfants. Je n'ai touché à un jeune. Mon amour homosexuel, c'est un amour réservé à une image. C'est un amour réservé à quelqu'un qui peut partager avec moi. Hein. Et je suis donc sorti de ce silence progressivement. C'est-à-dire, d'abord maman, ensuite le silence, le mariage, 28 ans de vie commune, des enfants. Et alors, progressivement, je me suis dit, mais il faut que tu parles. Il faut que tu peux pas garder ça.
Pierre et Hercel, histoire d'un triangle rose. Politique. Vert, les passagers illégaux, les délits de frontières. Jaune, juifs, polonais ou russes. Écossais, droits communs ou asociaux. Bleu, les homosexuels ou les religieux. Voilà les sigles, les signes qui marquaient ceux dont les nazis avaient décidé la disparition. De tout cela, ceux qui portèrent d'abord le sigle bleu, puis le triangle rose. On en parle peu, on en parle pas souvent, très peu souvent. Oublié de l'histoire ou méprisé, allez savoir. Aujourd'hui, le témoignage de Pierre Sell. Pierre Sell a 70 ans, il vient de vous le dire, et il veut absolument témoigner. Ne croyez pas que c'est quelqu'un qu'on est allé chercher comme ça dans un coin et qu'on a supplié de bien vouloir parler dans le micro. C'est quelqu'un qui veut absolument témoigner et raconter son histoire. Ça se passe à Toulouse, un beau jour tranquille de Toulouse. Si on voit cet homme dans la rue, personne ne peut se douter de qui il est, ni imaginer un seul instant qu'il porte, qu'il est le dépositaire d'une histoire aussi poignante.
Bonjour monsieur.
Donnez-vous la peine de rentrer, je suis heureux de vous accueillir.
Bonjour monsieur, Daniel Mermet.
J'étais à la fenêtre pour vous guetter et puis j'allais à votre rencontre et puis je vous ai manqué.
Voilà, ben on arrive. On arrive, on avance par là.
Oui, oui. Écoutez, je ne vous invite pas à ranger. Hein, vous prenez comme c'est. C'est mon cadre de vie. Donnez-vous la peine, excusez-moi, je suis désolé. Je vais chercher une autre chaise. Ça, c'est mon bunker, parce qu'en même temps que je fais la cuisine, c'est ici que je me concentre.
Ah, mais pourquoi vous avez toutes ces galettes de roi?
Oh, ça, c'est des garnitures. Je vis avec un garçon qui m'aide surtout à vivre, oui, qui m'aide à payer le loyer. Et puis alors, il m'a ramené des galettes les unes après les autres.
C'est drôle.
J'ai toujours été le roi, et puis voilà.
Ah
ça, c'est... Non, mais ça, c'est des trucs, vous savez, quand on est seul, on survit. Ça aussi, vous voyez.
Pourquoi cette bougie, oui, c'est la cuisinière.
Cette bougie, depuis des années, j'ai une bougie ici. Elle brûle pour les morts que j'ai connus en mai 41. C'est idiot, c'est terrible.
Ah, sans souvenir des...
C'est pas un souvenir, c'est une présence. Dès que quelqu'un arrive, j'éteins.
Ah.
Là, vous êtes là, je vais éteindre. Et vous allez partir tout à l'heure, je vais randonner. Ah. C'est une présence que je ne suis pas seul avec ça. C'est une présence. Vous voulez que je vous montre d'abord le logement?
D'accord, d'accord. Je vais poser ça là, moi.
Oui, s'il vous plaît, excusez-moi, vraiment.
Mais alors, ce bazar, qu'il y a des papiers partout. Les emballages de Monoprix.
En jachère, tout est en jachère.
Ah, en jachère, voilà, c'est l'idée de la jachère.
Je ne veux pas avancer, je veux rester, je veux m'installer dans ma mémoire. C'est ça le témoignage là que je porte. Vous voyez, il y a des affaires à mes enfants. Quand ils ont quitté la région, bon, ils m'ont déposé des affaires, vous voyez. Ça, c'est, si vous voulez, c'est presque plus un lieu de rencontre parce que ils sont là-haut sur Paris. Il n'y a que le téléphone qui encore est un lien, vous voyez.
Et vos enfants viennent vous voir de temps en temps?
Quand ils viennent en vacances, quand ils viennent ici, il y a la maman a une maison en Ariège, alors là-bas, ils se rassemblent. Mais moi, je ne fais plus partie de tout ça. Je suis excommunié.
Vous êtes exclu ou vous avez été exclu?
Il y a des deux. Il y a des deux. J'aurais peut-être dû faire un effort. Mais on dit toujours l'autre aussi doit faire un effort. Et puis, résultat, ben... Mais enfin, on n'a pas accepté mon témoignage sur l'homosexualité. Il n'a pas été accepté dans la famille.
Pas du tout, pas les enfants pas non plus. Tout.
Non, non, non. Non, non, parce que, à tort ou à raison, ils me reprochent de l'avoir caché à leur mère. N'est-ce pas? J'ai commencé à parler après 28 ans de mariage. Et là, c'était l'étonnement général. Autant pour mon épouse que pour les gosses, que pour la famille. Il n'y avait que les Alsaciens qui le savaient, mes frères et belles-sœurs. Et il semble qu'ils ont conservé le secret. Le secret là-bas était conservé.
Ah oui.
Il fallait pas qu'on sache que Pierre, moi je suis Pierre, que Pierre était un déporté homosexuel. Je suis né, je vais vous dire la date, 16 août 23 à Haguenau, dans le Bas-Rhin. Mes parents étaient aisés, mais toujours avec des difficultés. C'est-à-dire, j'étais le septième enfant, hein. Septième garçon, ils ont adopté une petite fille après moi. Un milieu très catholique, très pratiquant, très très catho.
Quel enfant vous étiez?
Du fait que j'étais le plus petit, mes frères disaient toujours « tu es l'enfant gâté ». Enfin, ils le disent encore maintenant, que eux recevaient des fessées et moi je pouvais me libérer de ça par ma, soit par peut-être parce que j'étais le plus petit, peut-être parce que également les parents ont vieilli entre temps. Maman était quand même assez âgée quand elle m'a eu, je crois qu'elle avait presque 40 ans. Et disons que c'est un bon souvenir. Je n'ai jusqu'à l'âge de 17 ans, je ne savais pas ce que c'était la fin, par exemple, ou des problèmes de famille. J'ai jamais entendu disputer mes parents, par exemple. Vous voyez, tout semblait baigné. À l'époque, quand même, je crois que les parents, ça doit encore être vrai maintenant, les parents cachent beaucoup de choses aux enfants.
C'est la règle.
J'ai premièrement été très élevé, très français, c'est-à-dire en Alsace, vous avez quand même, encore maintenant, paraît-il, une partie qui est plutôt à tendance autonomiste. Il y a une partie qui ne déteste pas les Allemands, hein, c'est leur choix. Moi, j'adorais la France. Pour moi, tout ce qui était français, l'armée française, c'était pour moi c'était quelque chose. En plus, à l'école, j'étais assez bon élève quand même, et un souvenir que je n'ai jamais oublié, j'avais en face de moi un garçon qui était d'origine allemande, donc son père était allemand, n'était pas alsacien. Et il travaillait dans une bijouterie, et nous avions entre nous une querelle, celui qui faisait les plus belles rédactions françaises. Et j'étais malade à un tel point, jusqu'aux larmes, quand c'est lui qui avait une meilleure note que moi. Lui, l'allemand, n'est-ce pas? Moi, l'alsacien, lui, l'allemand. Vous voyez, c'est un souvenir. Je crois que beaucoup de jeunes de ma génération ont passé par là. J'étais en admiration devant l'uniforme. Je trouvais qu'un homme en uniforme, il faut le dire, pour moi c'était beau, et ça provoquait en moi, très jeune donc, un désir que je ne pouvais pas exprimer, parce que il y avait d'une part la famille, la religion, le péché. La confession hebdomadaire, n'est-ce pas? Je ne critique rien du tout, c'était comme ça. Il paraît que c'est encore comme ça maintenant. Pour communier, il fallait passer à la confession. En plus, l'école des frères, c'était la prière le matin, à l'arrivée, etc. J'étais donc enveloppé dans cette sécurisation qui, si vous voulez, m'empêchait de vivre une fois de plus, en fait, dès le début, mon homosexualité. Ça c'est grave.
Alors vous regardiez passer les beaux militaires.
Les soldats, enfin tout ce qui était, les sportifs aussi, une attirance.
Mais ça, tout gamin, tout enfant.
Oui, je ne sais plus quel âge que j'avais à l'époque. 12 ans, 13 ans peut-être. Quand même protégé par cet environnement de la famille, de la religion. Protégé. Je l'ai dit quelque part, que si dès le début on m'avait préparé en disant il y a sur Terre l'homme et la femme, il y a plusieurs possibilités de s'aimer, certainement que ce que je vais vous dire tout à l'heure ne serait pas arrivé. Un jour, en sortant de l'école, il y avait un lieu de rencontre. C'était des WC publics, les toilettes qui étaient souterraines, près d'un square, près le square Steinbach à Mulhouse. Et là, on était plusieurs garçons à descendre et puis à se rencontrer. Voilà. Et moi, je suivais le mouvement. Je pense que je n'ai jamais été un meneur, mais enfin, ça assouvissait, si vous voulez, mon besoin de curiosité. Et peut-être ma recherche d'amour. C'est le mot, il faut le dire. Et il est arrivé un événement dans ce sous-sol. Un de mes voisins m'a arraché ma montre. Montre-bracelet. À laquelle je tenais beaucoup. Je venais de faire ma communion solennelle. En Alsace, c'est un grand événement. Et c'était un cadeau d'une sœur à ma mère, qui était donc ma marraine et qui habitait à Paris. Alors pour moi, en plus, cette marraine, c'était Paris. La montre, c'était Paris. Vous voyez, c'est terrible de vous exprimer ça. Il me l'a arraché, j'ai hurlé, au voleur, au secours. Les autres, tout le monde est parti, ils sont évaporés dans la nature. Et je me suis retrouvé à grimper les escaliers, mais le voleur était disparu. C'était pas un garçon de l'école. Hein. Et alors j'étais là dans ma misère. Et puis, il fallait vraiment être innocent. Je suis allé au commissariat de police. Et je suis arrivé là, tout tremblotant, et je dis au policier de service, là, d'accueil, voilà, on vient de me voler ma montre, on va faire une déposition. Et puis, un inspecteur a pris, que je connaissais, de vue, et puis lui me connaissait, le fils de la pâtisserie, une des plus grandes pâtisseries confiseries de Mulhouse. Mais qu'est-ce que tu as fait dans les WC, qu'il me dit. Qu'est-ce que tu as fait si papa savait ça? textuellement. Ça m'est resté. Je suppose que j'ai dû rougir derrière les oreilles, terrible. Et puis là, j'ai dit, bon, voilà, c'est un lieu de rencontre. Ah, elle dit, bon, tu nous promets, tu vas bien travailler, tu ne descends plus, tu nous promets de ne plus aller là-dedans, c'est dangereux, c'est sale, etc. Et puis, on ne dira rien à papa ni à maman. Bon, merci beaucoup, je suis sorti, libre. Et ça, c'était donc dans l'année qui a précédé l'arrivée des nazis à Mulhouse. Hein? Alors, j'ai continué mon travail, j'ai eu le certificat d'études, j'ai essayé de ne plus penser à ça. Oui, si vous voulez, j'ai enterré ma nature. Hein? Aujourd'hui, je m'en rends compte. Les Allemands sont venus en juin 40. Je me souviens parce que nous sommes allés sur le trottoir, bien sûr, on était curieux quand même. Aux fenêtres, il y avait des matelas. Mes parents avaient mis des matelas devant les fenêtres, à tous les étages. Je sais que papa pleurait. Nous avions un voisin qui s'appelait Müller, qui lui était content. Il avait l'air content. Moi, j'étais triste. Ma mère était triste. Et nous étions surtout foudroyés par la force du matériel qui passait. J'ai arrêté d'aller à l'école. J'avais mon certificat. Et qu'il fallait chercher du travail. Alors, il n'y avait que l'embarras du choix. Mes parents connaissaient le gérant des chaussures André. Ça, je le vois très bien. Qui était rue du Sauvage. Ils connaissaient également le magasin de textile qui était à côté, qui était, lui, un magasin sous gestion allemande. C'était un magasin juif, mais géré, donc, sous l'occupation, par des Allemands qu'on faisait venir de l'Allemagne. Et le magasin, au lieu de s'appeler Schwab, à ce moment-là, s'appelait NEK. Ils m'ont donné un nom allemand. Moi, j'ai donc fait mes premières armes de vendeur, là-dedans. Je me souviens, ma première vente, c'était un soutien-gorge, d'ailleurs. Oui, non, c'est pas désagréable. J'aimais les foufous, j'aimais la lingerie, et puis je sentais... je ne voulais pas aller dans la chaussure, parce que pour moi, la chaussure, c'était désagréable. Il fallait se mettre à genoux devant le client, etc. Ah oui. Et vous voyez, un peu d'orgueil, quand même. J'ai donc été, disons, je crois, un employé modèle... J'avais les clés du magasin en plus, donc une responsabilité, très jeune, apprenti vendeur tout de suite, parce confiance. Que papa, maman étaient monsieur et madame Selle à Mulhouse. Vous voyez, c'est toujours quand même l'héritage de la famille, l'héritage qui n'est pas toujours facile à assumer. Hein. Et puis, j'ai donc fait mon travail. Le soir, il y avait le couvre-feu, mettait partout du bleu aux fenêtres, à cause des bombardements, à cause des passages des avions. Et la nuit était propice aux rencontres. Hein? Et oui, il faut bien que je remise cette merde. Hein? C'est comme ça que c'est arrivé. Et puis, j'avais quand même pas mal de copains, on peut dire copains, camarades, qui avaient des activités diverses. Nous avions... tout était motif de liberté. On allait au cours du soir, par exemple. Je n'avais pas de bicyclette. J'allais au cours en tramway, mais au retour, il n'y avait plus de tramway, donc à pied. Donc encore possibilité de rencontre. Etc. Mais aussi des rencontres dans le cadre, là je suis un peu gêné d'en parler, parce que je n'ai pas fait partie d'un réseau de résistance, c'était plutôt un réseau d'amis, de camarades homosexuels. Nous distribuions des tracts, par exemple, anti-nazis. On arrachait des affiches, on en collait d'autres. Il y avait des meneurs dans le groupe qui nous donnaient un pli sans rien dire. Ils disaient, va le porter à monsieur un tel ou à madame un tel. C'était pour nous, en même temps, le prix de la liberté. Je suppose que notre amitié, que nos besoins d'amitié favorisaient notre regroupement. un soir, en rentrant du magasin, donc qui était absolument voisin avec le magasin de mes parents, il y avait juste une maison entre les deux. Hein. Et je rentre, toujours, je pense que j'étais affectueux, je pense même que je suis un tendre. J'allais embrasser maman, qui était derrière sa caisse. Vous savez, avant les pâtisseries, j'avais un trône pour le magasin, bien avec le téléphone, tout ça. Puis maman était toujours bien habillée, malgré l'occupation, hein, elle était coquette. Et elle avait 10 ans de plus que papa. Au passage, je veux le dire, ça a peut-être une influence dans l'amour que je portais pour ma mère. Et puis, je rentre pour m'embrasser. Et puis elle me dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu es convoqué à la Gestapo demain. Là, comme ça. Au mois de mai, 41. Ah. J'étais loin de penser, je reviens au commissariat de police français, j'étais loin de penser à tout ça. Je me dis, bon, ben, dénonciation, peut-être parce que, vous savez, je vous ai parlé de ce camarade d'école qui était très fort en rédaction française. Lui, tout au début, il est venu me voir avec l'uniforme de la jeunesse hitlérienne, en uniforme. Donc, il s'était bien préparé. Il me dit, Pierre, tu viens avec nous, on va s'amuser, ça va être chouette, etc. Je lui dis, non, moi, je veux rien de ça. Il portait l'uniforme avec le brassard, avec la croix garnée. Je lui dis, ça, c'est pas possible. Et puis bon, je pensais à lui, tout de suite. J'avais comme une intuition, j'ai dit, ce garçon m'a dénoncé, etc. Il faut que je donne des explications, on va peut-être me forcer à le porter finalement, cet uniforme. C'était ma première... J'étais loin de penser à l'homosexualité, alors vraiment loin. Hein.
La destruction de l'État commence au moment où intervient un principe érotique. Et je le dis avec le plus grand sérieux, l'attrait sexuel de l'homme pour l'homme nuit à la bonne marche des affaires. Himmler.
Je revois l'endroit, je revois tout. Il paraît que ça a été transformé depuis. Et puis, les cris ont commencé tout de suite, les cris.
Quels cris? Pourquoi les cris?
Des hurlements, les Allemands ne peuvent pas parler, ils hurlent. C'est peut-être pour ça que j'ai tendance à hurler quand je suis en colère, parce qu'il y a peut-être, en tant qu'Alsacien, il y a peut-être aussi un peu de germanisme là-dedans. Vous voyez, il y a les deux cultures qui se sont cognées là-bas. Hurler, des hurlements, mais aussi des cris, et là, c'était les victimes. Là, c'était... les personnes qui ont été arrêtées en même temps que moi, qui ont été convoquées en même temps que moi, sur lesquelles on travaillait déjà, entre guillemets. Alors.
Ça veut dire qu'on les torturait.
Absolument, il n'y a pas d'autre terme. Alors, en traversant, on m'a donc installé également à une table. C'est allé très vite. On m'a montré un papier, qui était donc ce fameux rapport. Là, on revient donc à la catastrophe. Hein, qui est arrivé avant l'arrivée des nazis. Et si je reconnaissais, qu'est-ce que vous voulez, il y avait ma signature en bas, c'était marqué en français, etc. Lieu de rencontre, Schwarzenbach. Et je n'aime pas parler des coups que j'ai reçus, que nous recevions. De toute façon, j'ai reconnu aussitôt les autres garçons. Par la suite, nous avons su que nous étions 12 à être convoqués cet après-midi-là. 12 homosexuels. 12. Et alors, les tortures, c'était les uns étaient à genoux sur une règle, les tortures simples et les tortures compliquées. Ensuite, les gifles, le toujours avec la lumière, je revois les phares là, dans les yeux. Et alors ils ont commencé par un, ils m'ont fait descendre de pantalon pour ça, pour voir s'ils n'avaient rien caché. Soi-disant on peut cacher des papiers ou des affaires dans l'anus, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Et là ça a commencé, ils sont devenus comme fous, comme déchaînés. Et au point que dans une salle, ils ont battu les uns avec les autres. Le plus fort des nazis prenait un garçon hein, et taper l'autre avec, vous voyez. C'était vraiment la haine de l'homosexuel. La haine sur nous parce qu'on était homosexuel. Ça, j'en ai déduit tout de suite.
Mais est-ce qu'il savait que vous aviez distribué des tracts et des choses comme ça?
Non, justement, ça n'a jamais ressorti. Ça n'est jamais ressorti. Moi, j'aurais préféré que ce soit ressorti, qu'on nous dise, voilà, vous avez enlevé des affiches, vous avez distribué des affiches, etc. J'aurais peut-être, au moment de la libération, en 45, quand je suis revenu, j'aurais peut-être été fier et j'aurais parlé de ma résistance, que j'ai fait moi aussi de la résistance. Non, on nous a diminué plus que bas, sous terre, n'est-ce pas, avec l'homosexualité.
C'est au cours de cette séance de torture que vous avez été violé par les nazis.
Oui, jusqu'à présent, je n'ai jamais insisté là-dessus, parce que je me suis toujours réservé le droit de protéger ce souvenir. Je ne commence à parler que depuis un an, deux ans de ce viol, hein, parce que c'est trop dur, c'est trop... pour moi, c'est lié aussi à toujours à cette notion de honte, d'abaissement, n'est-ce pas ? Maintenant, si je revois la scène, et si je devrais la décrire en toute réalité, le viol en lui-même n'était peut-être pas la chose la plus terrible. C'était le sang qu'il y avait partout. Sur les papiers, sur les tables, il y avait du sang partout, comme dans une boucherie. Et toujours les cris, les hurlements des nazis, et nos propres cris à nous aussi, des cris de douleur, de souffrance, n'est-ce pas? Hein? Parce que vous avez des gens qui savent souffrir dans le silence, qui mettent la main dans la bouche pour se taire, pour accepter la souffrance. Et il y en a d'autres, moi j'ai hurlé comme quelqu'un qu'on égorge. Le malheur, c'est que plus je hurlais, plus je les excitais, plus ils étaient violents, plus ils sortaient leur violence, voyez. Et vous ne pourriez rien faire. Ils étaient armés, premièrement, ils étaient bottés, et nous, on était à moitié dévêtus, hein, avec du sang partout. Et ça a duré quand même longtemps, cette séance, l'après-midi. Dans les différentes salles, ça bougeait, ça bousculait. D'une salle, on venait vous tirer dans une autre. Et il y avait toujours, ça, je l'ai peut-être passé exprès sous silence, j'avais dans le magasin où je travaillais un petit ami qui était vraiment, tous les deux, nous étions très heureux de nous aimer, Joe et moi. C'est important que je le dise parce qu'il a été convoqué en même temps que moi, Joe. Et là-dessus, donc, on nous a montré un autre papier où il y avait le nom que nous avons tout de suite reconnu d'un prêtre, un aumônier du lycée de Mulhouse, un prêtre jésuite, il est maintenant décédé. La Gestapo nous a demandé, vous l'avez connu, comment l'avez-vous connu, etc. Et là, nous avons été très forts, nous avons réussi à ne rien dire. Joe et moi, jusqu'au bout, nous avons protégé ce prêtre. Il n'a pas été arrêté. Il aurait suffi que qu'on cède, nous deux, à notre souffrance, et qu'on signe, par exemple, ou qu'on fasse une allusion quelconque, et cet homme aurait été arrêté. Le soir même, mon père et mon frère, qui devaient donc se marier dans la quinzaine, se sont présentés à la Gestapo, et on demandait, après moi, et on demandait qu'est-ce que devenait Peter, moi je suis en adaptation, ça s'appelle Peter, c'est... Ah, votre fils, c'est un Schweinehund. C'est un Schwein, c'est cochon, et Hund, c'est chien. N'est-ce pas? Et Arschficker, ça veut dire enculé. Voilà, Arsch, c'est cul, c'est l'anus, et Ficker, c'est le baiser, quoi. Et alors là, mon père est presque tombé, il paraît qu'il est tombé évanoui, presque évanoui, ma maman est tombée évanouie quand elle l'a appris. C'est comme ça que mes parents ont appris que j'étais homosexuel. Le soir même, donc, nous nous sommes retrouvés dans des cellules, à la prison, aux prisons de Mulhouse, Et là, j'ai découvert la cruauté de l'être humain. J'étais donc le plus menu, le plus nègre, le plus jeune. La cellule était encombrée d'une montagne de d'hommes, d'êtres humains. Les uns plus mal lotis que les autres. Et moi, on m'a mis, le mur suintait, ça, je le garderai toujours dans ma mémoire, le mur suintait, nous étions donc tous des Français, hein, tous des victimes des nazis. Moi, on m'a mis dans l'eau, moi le plus jeune. Aucun ne voulait se mettre de côté du mur, la flaque d'eau, et j'ai resté là la nuit entière, croupi dans cette eau. Ça m'a fait réfléchir sur, moi qui était un être d'amour, qui le suit encore, qui crie, qui je ne voudrais que hurler l'amour, d'avoir fait ce jour-là, en une seule journée, le contact avec l'horreur, avec le viol, avec la souffrance, et en plus, l'attitude des compatriotes, n'est-ce pas, qui étaient peut-être il y a quelques jours avant avec moi enfin chercher le plaisir peut-être. Vous voyez, tout ça je l'ai découvert en une seule après-midi. Et nous avons été transférés au camp de Voorbrug qui est dans le Bas-Rhin. C'était un camp qui en 41 commençait à se remplir. Il y avait des communistes, il y avait des tziganes, il y avait des juifs, il y avait des homosexuels comme nous autres, il y avait beaucoup de femmes quand même, il y avait des prostituées, des droits communs aussi. Ça c'était terrible, le contact dans ce camp. Moi, un souvenir qui me reste, on passait à la tondeuse. Normalement, on était tous tondus et ensuite à la douche, l'échange des vêtements. Moi, quand même, pendant 2 ou 3 jours, on m'a fait circuler avec la croix gammée sur la tête. J'avais des très beaux cheveux, j'étais un zazou, comme on disait à l'époque, des cheveux en arrière collés. Ça se voit plus maintenant, j'ai plus rien. Mais vous savez, les nazis, ils étaient vraiment très forts, ils inventaient n'importe quoi pour vous diminuer. Alors cette croix gammée, tondue sur ma tête, dans mes cheveux, n'est-ce pas, j'étais la risée des autres. Et en plus, l'insigne qui montrait quand même que j'étais un homosexuel, nous n'avions pas de triangle rose, nous avions un insigne bleu à l'époque. Donc je n'avais pas ni l'étoile, ni l'insigne rouge des politiques, ni l'insigne brun des gitans. On avait un insigne à nous, donc on nous reconnaissait. Alors, il y avait quand même, de la part des compatriotes, de la part des autres, une risée, hein. C'est pour ça, longtemps après, même dans l'armée allemande, je me disais, ça doit se voir sur mon visage. Longtemps dans la rue aussi, il m'est resté une habitude, une des souffrances particulières qu'on nous réservait là-bas dans le camp, c'était, il fallait toujours courir et ramasser des petits bouts de papier. Et les SS s'amusaient à en jeter, dès que vous en ramassiez un, ils en remettaient d'autres. Et alors on passait des heures entières à ramasser des bouts de papier. C'est peut-être pour ça que maintenant je suis encombré de papier. Rien que pour dire je ne veux plus les ramasser. Je suis libre moi maintenant d'avoir mes papiers. Vous voyez, c'est terrible. Ça, je voudrais que vous exprimiez tout ça. Enfin, en somme, ma façon de vivre maintenant est une. Ce n'est plus une interrogation, c'est une révolte constante contre mon passé. De ce que j'ai vécu, de ce que, de, vous voyez. Alors, pour en revenir au camp, c'est allé très vite dans les premiers jours, en juin 41, donc un an après l'arrivée des nazis, hein, un an après l'arrivée des nazis. Un matin, je ne vois pas Joe. Et nous avions tous les matins des appels, ça s'appelait, il fallait aller sur la grande place du camp, où il y avait les potences d'ailleurs aussi, pour les pendaisons. Ça, on ne le dit pas assez, tout ça nous l'avons vécu, hein, ils laissaient balader les corps des fois pendant des journées entières, les corbeaux qui tournaient autour, on était toujours avec cette vision, hein. Et je ne vois pas Joe, et je le vois arriver, encadré de deux gendarmes, de deux Gestapo, et ils ont lu, donc toujours en allemand, une sentence, une condamnation à mort, et là, ça je vous parle alors de mon ami, hein, mon ami, c'était pas mon amant, parce que c'était très pur, c'était magnifique ce que nous avons vécu tous les deux ensemble. Il était là, ils l'ont fait déshabiller, entièrement à poil. Je pèse bien mes mots. Ils lui ont mis un seau en fer blanc sur la tête. Donc on ne voyait que le corps. Et ils ont lâché les chiens du camp sur lui. Et ça, c'est historique, cette déclaration. Je veux qu'on le sache, qu'on le dise encore maintenant, qu'on en répète dans les chaumières, que partout je veux qu'on le sache, qu'ils ont fait ça, les Allemands. Les Allemands, c'était des nazis, mais c'était des Allemands. Joe, quand il a été dévoré par les chiens, la musique était diffusée pendant ce temps.
Quelle musique vous savez?
Allemande, de la grande musique allemande. Oui, oui, oui. En partie, ça couvrait les cris, mais les cris déjà étaient couverts par le seau sur la tête, n'est-ce pas, ce seau métallique, mais qui par moment amplifiait le bruit. Ça faisait une sonorisation, si vous voulez. Oui, c'est atroce ce que je vous dis là. Hein? Vous comprenez maintenant pourquoi il y a une bougie qui brûle chez moi. Hein?
C'est la mémoire de Jo.
C'est lui. Plus, maintenant j'ai 70 ans, plus je vieillis, plus j'ai besoin de penser et de sentir, je me dis, pourvu que sa dernière pensée était pour moi. Oui, à ce point. Je peux pas m'empêcher de penser à lui. Je peux pas, c'est pas possible.
C'était un reportage de Daniel Mermet. À la technique ce soir, Patrick Henry et Anne-Laure Cochet, réalisation Antoine Chao et Yann Chouquet, assisté de Pascal Pascariello, chef du répondeur Christophe Imbert. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous avez le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Une dernière minute, la multinationale Monsanto a fait saisir le 26 novembre dernier les comptes bancaires de la Confédération Paysanne pour soutenir la Confédération de moyens par courrier amis de la Confédération Paysanne, mention solidarité contre Monsanto, 104 rue Robespierre, Pierre 93 170 Bagnolet, ou par virement compte des amis de la Confédération Paysanne au Crédit Mutuel. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis.